aujourd'hui, nous sommes avec deux enseignants de lutte ouvrière. Il y a Cyril Duvinage.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, il y a Thomas Preux.
Bonjour.
Alors, tous les deux, vous êtes enseignants. Toi, en lycée, et toi, tutoie, hein, ça se fait...
Oui, bien sûr.
On a le droit.
Pas de problème.
Bon. Voilà. Vous allez nous parler de la fête de lutte ouvrière qui se fait, comme chaque année, à l'espace mosaïque de Saint-Priest. Alors, les Saint-Priots connaissent l'espace mosaïque. Ils y vont régulièrement. Et tous les autres gens qui nous écoutent, qui sont de Lyon ou bien éventuellement de partout ailleurs, comment est-ce qu'ils vont venir à l'espace mosaïque? C'est samedi et dimanche, le 21 et le 22 septembre.
Exactement.
Alors comment ils vont venir, les gens qui ne nous connaissent
donc
pas?
Donc ça commence samedi à partir de 17h et le dimanche, c'est tout l'après-midi.
Toute la journée.
De midi jusqu'à 19h. Et donc c'est rue Aristide Briand au 47, c'est-à-dire que c'est l'ancienne route d'Erieux.
Voilà.
Alors,
donc,
on peut y venir avec le tram T2, on descend à la station Hôtel de Ville à Saint-Priest, c'est pas très loin à pied, ou alors on peut prendre le C25 à Paris.
Voilà, donc tout ça c'est possible, le C25 on descend juste à côté en fait, c'est pas difficile du tout, on retrouve la route d'Erieux, on roule un petit peu à droite, et puis encore à droite, et puis on trouve facilement. Si vous avez besoin de savoir un peu plus, vous allez sur le site de Hello.
Donc sur le site de Lutte Ouvrière ou la page Facebook Rhône-Alpes, il y a plein d'informations qui sont mises en ligne sur le contenu de la fête, y compris comment avoir les places. Donc c'est 7€ pour les deux jours pour pouvoir venir quand les places sont prises à l'avance. Donc on peut les acheter auprès de nos militants ou en prenant contact via le site ou via la page Facebook Lutte Ouvrière de Lyon.
Et si on imagine qu'on n'a pas de personne de lutte ouvrière à côté de chez soi, on peut écrire?
Tout à fait, on peut écrire à la boîte postale, donc c'est à Lutte Ouvrière, boîte postale 238 69 634 Vénissieux, ou autrement nous retrouver aussi sur les marchés, des activités qu'on va faire nombreuses.
D'accord.
Par exemple sur le marché de
Saint-Priest
tous les dimanches.
Thomas, quelque chose à rajouter?
Oui, mais je veux juste dire que pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité d'acheter la place à l'avance, c'est toujours possible de venir le samedi 21 ou le dimanche 22 directement à la fête. Là, ça sera 10€ sur place, mais bien sûr, on peut venir à la fête directement de Lutte Ouvrière sans forcément acheter ses places à l'avance.
Voilà. Donc essayez de trouver les habitants les personnes de lutte ouvrière, soit sur le marché, soit ceux que vous connaissez autour de vous. Et puis vous pouvez payer un petit peu moins cher. Mais sans ça, il faut venir.
Alors ça vaut vraiment le coup de venir parce que c'est une fête où il y a à la fois plein d'aspects d'animation, des aspects festifs, puis plein de discussions, de débats politiques sur les questions de l'actualité, des gilets jaunes, du climat, des choses qui aujourd'hui font beaucoup discuter quand même dans la population et dans les classes populaires en particulier.
Alors on va en parler un petit peu de tout ça, de tout ce qui est proposé, 17h le samedi et puis toute la journée à partir de midi le dimanche. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se font. Si jamais j'ai toute ma famille, j'ai 3 enfants, 4 enfants, monsieur, madame, les enfants payent aussi cher que les parents?
Alors non, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans et il y a plein de choses prévues pour les enfants. Il y a un film le dimanche midi pour les enfants, il y a des animations, des ateliers de maquillage.
Donc on peut venir en famille alors.
Tout à fait, tout est prévu, y compris pour que les parents puissent laisser leurs enfants, les confier aux camarades qui cherchent des animations et passer un moment à venir discuter des idées.
Un moment agréable. Donc là, vous préparez tout ça. Vous êtes combien de lutte ouvrière dans la région lyonnaise, globalement?
On est à peu près entre 200, 300 pour toute la région, l'agglomération. Et donc là, c'est tout un effort.
Chacun s'y met.
Donc il y en a qui militants, participatifs. Certains s'occupent des petits, d'autres préparent des choses à manger, d'autres préparent un banquet qui a lieu le dimanche, midi, ou alors préparent aussi les expositions, les exposés scientifiques et toutes les animations qui font la richesse de la fête.
Alors justement, dans les choses qui sont toujours intéressantes dans les fêtes de lutte ouvrière, c'est cette dimension science. Il y a des choses qui se font sur les sciences. Vous allez nous parler du choléra.
Tout à fait. Donc c'est un exposé en fait autour du choléra, donc de cette maladie provoquée par une bactérie, à travers l'exemple de Haïti et de l'épidémie qu'il y a eu en 2010.
Alors, qui vient faire ce travail-là sur Haïti? Y a-t-il une personne que vous connaissez particulièrement?
Bah, c'est moi-même, en fait.
C'est toi? Ah donc, oui, toi bah, qui t'intéresses, voilà, qui es prof de biologie. Hein,
voilà, et donc c'est autour de ça. Donc, il y a des aspects de science sur le choléra, sur le fait, la maladie, la bactérie, ce que c'est, y compris son histoire. Et puis, des aspects politiques, parce qu'en réalité, les maladies, les épidémies, c'est extrêmement politique tout le temps dans toute l'histoire. Même quand on regarde l'histoire de la peste, du choléra, de Ebola en ce moment. Oui, voilà. Oui. Et Haïti, bah, une des choses quand même qui est profondément révoltante, c'est que l'épidémie de 2010 a été apportée par les casques bleus népalais. Et l'ONU a pendant des années absolument caché cet aspect, ne voulait pas que ça se sache parce que ça faisait pas bonne pub. Et voilà, donc ça, il y a eu un combat de
En quelle année alors
En 2010, juste en 2010, peu après en fait, quelques mois après le tremblement de terre.
Qui s'était produit. Il n'y avait pas de choléra à Haïti. Népalais sont venus au nom de l'Organisation des Nations Unies et ils ont mis le choléra à Haïti, qui n'en avait pas besoin.
Oui, alors c'est pas tant de la faute des casques bleus népalais, les pauvres,
pas leur faute,
voilà, y compris eux-mêmes étaient traités vraiment de façon assez, enfin pas correcte. Et il y avait aucune toilette qui était prévue, par exemple, les excréments des camps de casques bleus étaient déversés directement dans les rivières. Et donc la maladie vient de là, et alors qu'il n'y avait pas de choléra dans l'île d'Haïti avant.
Alors, toi, tu as observé tout ça. Comment est-ce qu'on se renseigne sur ce choléra de Haïti? Parce que je connais bien Haïti, on a beaucoup de gens qui viennent nous parler de Haïti aujourd'hui, et je n'avais pas repéré cette chose-là. Comment est-ce qu'on se renseigne là-dessus?
Alors ça, c'est sorti récemment dans la grande presse, etc. Le Monde a fait des articles et tout. En bonne partie, suite à un livre d'un médecin qui intervenait pour MSF, qui s'appelait René Pialou, et donc qui a écrit un livre qui est sorti cette année. Et voilà, c'est le récit d'un humanitaire qui s'est retrouvé confronté à cette situation-là et qui lui-même ne croyait pas que l'ONU soit capable de faire ça. Et il a découvert que les autorités internationales en qui un certain nombre de gens, même beaucoup de gens, ont confiance, en réalité sont capables de mentir. Et ils sont capables.
Oui, parce qu'il y a eu non seulement les Népalais qui ont apporté le choléra, mais ils n'ont pas cherché à en faire trop de publicité.
Pas du tout. Ils ont complètement
caché les choses. Donc René Pialou a trouvé tout ça.
Donc lui, en fait, il l'a su très très tôt. Il a fait en fait une enquête pour le compte de la diplomatie française et qui a d'ailleurs aussi caché. Enfin, demander à ce que ce rapport reste discrètement. Voilà.
Oui, enfin, en tout cas,
il ne voulait pas que ça sorte. Et visiblement, un des problèmes de l'ONU, des autorités internationales, c'est que s'il s'avérait qu'il y avait des Haïtiens qui demandaient à être indemnisés de tout ça, ça ferait beaucoup d'argent, y compris ça décrédibilise.
Ils n'ont pas les sous.
Surtout, ils ne veulent pas payer. Voilà, oui, parce que c'est ça qui est profondément révoltant.
Ils trouvent toujours.
Voilà. Pialou, il dit là que ce gars, il dit que pour gérer le choléra, il faudrait 10 millions d'euros pour éliminer le choléra de Haïti. Et 10 millions d'euros,
qu'est-ce que c'est? Parce que le choléra continue à faire ses ravages en Haïti maintenant.
Moins, mais il ne faudrait pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que 10 millions d'euros? Là, dans la semaine, on a appris que Carlos Ghosn avait détourné 300 millions d'euros de Renault. Donc, Carlos Ghosn, tout seul, il se met 300 millions dans la poche, alors qu'il faudrait 10 millions pour éliminer le choléra de l'île d'Haïti.
Donc, c'est pas... Tu vas nous causer tout ça lors de cette réunion.
Moi, je voulais juste une précision. Bien entendu, les soldats népalais, ils n'ont pas fait exprès d'apporter le choléra. C'était pas une volonté des soldats népalais d'apporter le choléra.
Tout à fait, ils étaient même, y compris eux-mêmes, victimes. Et le responsable du camp a nié le fait que ses propres hommes étaient malades.
Voilà. Donc tu vas nous raconter tout ça. C'est le samedi ou le dimanche?
Ça sera normalement le dimanche, mais ce n'est pas encore tout fixé.
D'accord. Donc, alors, est-ce que, quand tu n'es pas là, est-ce qu'il y a une petite présentation qui se fait sur ce cas-là, dans vos rencontres?
Alors là, on présentera le livre, par exemple, de René Pialou. On vend un certain nombre de romans, de livres, etc. Il y a une librairie scientifique où on présente des livres de sciences. Voilà. Au stand scientifique, il y aura aussi des choses, par exemple, sur la conquête spatiale. C'est-à-dire sur... c'était en 1969, les premiers pas sur la Lune.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est à la fois génial. Ça montre ce que le génie humain est capable de faire. Et puis à la fois, ça s'est fait dans un contexte guerrier. C'était la guerre des étoiles. C'était l'impérialisme américain qui ne voulait pas se faire dépasser par l'Union soviétique. Et c'est aussi une forme de gâchis. Et nous, on pense que aujourd'hui, on pourrait faire des choses grandioses chose si on arrive à se débarrasser de cette loi du profit, de l'oppression, du fait que il y a beaucoup de choses qui se font pour
donc
faire de l'argent.
Ça va se faire dans vos rencontres.
Là aussi, je pense que derrière tout ça, il y a une vraie question de moyens, et ça montre un petit peu où en est la société capitaliste aujourd'hui, parce que cet exploit-là d'aller marcher sur la Lune, ça a été fait il y a 50 ans, et aujourd'hui, on entend les autorités américaines et le président américain dire que ça serait extrêmement compliqué d'arriver à renouveler cet exploit scientifique, ce qui montre quand même qu'aujourd'hui, la société capitaliste n'arrive pas à produire de tels progrès, et finalement, ça montre aussi un peu l'impasse de notre société, de notre système économique.
Une des discussions que vous mènerez lors de cette rencontre. Est-ce qu'il y a des nouveaux livres à montrer justement sur ces questions, sur la conquête de l'espace?
Alors là, il n'y a pas forcément de nouveaux livres, etc., mais c'est plutôt le prétexte de l'anniversaire des premiers hommes qui ont marché sur la Lune,
Armstrong et compagnie,
qui nous sert à discuter de ces aspects-là.
D'accord. Alors, on reviendra un petit peu sur l'aspect scientifique des choses. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup dans la fête de Hello. Est-ce qu'il y aura aussi de la musique? De la musique, vous avez plusieurs musiciens comme ça qui viennent avec vous. Et on pourrait commencer par écouter un de ces musiciens. Alors, est-ce que ça serait, par exemple, Chris Feelingbaum?
Oui, on pourrait écouter ça. Et donc, c'est un de nos amis qui joue de l'harmonica, qui s'appelle Philippe Bruno. Donc là, il sera dans une autre formation qui s'appelle Silver Tones. Mais autrement, on peut écouter un son donc, qui a été enregistré aux grosses guitares.
Alors,
il joue un morceau de blues.
Le son, on va l'écouter parce que Jean-Philippe est là pour me parler de temps en temps et puis poser des questions. Et puis, il est là aussi pour faire la technique. Jean-Philippe Bonneau. Thank you.
Vivre ensemble chaque semaine de nouvelles découvertes.
Alors nous sommes avec nos deux invités qui nous parlent de la fête de lutte ouvrière qui aura lieu à l'espace mosaïque à Saint-Priest l'après-midi du samedi 21 septembre et puis toute la journée à partir de midi du 22 septembre. C'est tout bientôt. Eh bien merci tous les deux d'être venus, Cyril et Thomas. Et vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe dans cette fête. Alors, on va commencer par des vidéos et des documentaires qui seront sur un certain nombre de sujets que vous allez présenter aux enfants et peut-être aux adultes aussi.
Aux adultes aussi,
alors,
bien sûr.
Alors, l'Algérie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Algérie?
Alors là, c'est bientôt, bien entendu, et par toutes les attaques des grands patrons, des milliardaires du gouvernement contre la pauvreté. Autour de nous, quand on discute, on entend régulièrement « c'est pas possible, ils sont trop forts, on verra jamais des millions de gens se mettre à se défendre collectivement, à lutter ». Eh bien, justement, là, on a un exemple sous les yeux. On a le peuple algérien qui montre la voie, en quelque sorte, et qui nous montre que, oui, les révoltes, elles ne préviennent pas à l'avance, mais ça finit toujours par arriver. Je pense que, y compris en Algérie, pendant longtemps, il y avait bien des gens qui devaient se dire « Non, c'est
ça
trop dur
pas,
ici,
hein.
Voilà, ça bouge pas ». Eh bien, si. Voilà, là, ça fait des mois que le peuple algérien, il est en lutte contre l'État, contre la corruption, contre le système, comme ils le disent justement. Et c'est une démonstration de force de ce que le peuple peut arriver à faire. Alors, bien sûr, on peut aussi parler des perspectives pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, voilà, c'est l'armée qui a pris
un peu plus de pouvoir.
Voilà, qui a pris les commandes. Et donc, quelque part, bien sûr, on peut dire que tout reste encore à faire, mais avant tout, c'est un mouvement qui n'a pas dit son dernier mot, loin de là. La population algérienne est toujours mobilisée. Et puis on a encore bien des choses à apprendre de ce qui se passe en Algérie.
Alors, j'ai deux questions. Vous avez un documentaire à présenter. Ce documentaire, il est long. Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ce documentaire?
En fait, on va projeter un montage avec l'idée de montrer, y compris, d'où vient la révolte. Qu'est-ce qui fait que, d'un seul coup, des millions de gens peuvent se soulever? Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, depuis des années et des années, la vie des gens s'est profondément dégradée. Voilà, en Algérie, les problèmes sociaux sont toujours là. Il y a un chômage qui est massif. L'inflation grogne complètement le pouvoir d'achat. Et y compris pour ceux qui ont un boulot, hein, pour ceux qui travaillent, c'est de plus en plus compliqué de vivre, voire de survivre.
D'accord. Donc, il y a une exposition aussi qui sera présentée.
Voilà, sur ça. Et y compris qui montre qu'il y a eu des grèves. Une chose qui a été très très peu évoquée dans la presse ici, voire pas du tout, mais même y compris dans la presse algérienne, c'est que depuis des mois, en fait, il y a des grèves, il y a des mobilisations, et les travailleurs, en fait, sont quand même très en avant dans toutes les mobilisations. Il y a eu des grèves au port d'Alger, il y a eu des grèves dans l'industrie du pétrole, dans la filiale qui est liée anciennement à Renault Trucks, à Rouiba, dans l'industrie agroalimentaire, de partout. Et en fait, on voit que là-dedans, les travailleurs, ils sont fortement impliqués. Et nous, notre problème, un peu y compris comme par rapport aux gilets jaunes, etc., c'est que ce soit leurs intérêts qui soient mis en avant. Alors évidemment, défendre les salaires et l'emploi en Algérie, pendant longtemps, ça a été y compris derrière la question du dégager tous, du système et des droits démocratiques. Et c'était normal. Mais nous, on pense que c'est vraiment, vraiment important que les travailleurs, ils apprennent à s'organiser, à décider, et y compris à un moment peut-être à s'organiser par rapport à l'armée, parce qu'effectivement, comme on disait, l'armée, elle est toujours là, et demain, ils pourraient décider qu'il y a un bain de sang. Pour le moment, ils ne l'ont pas fait, parce que visiblement, le rapport de force n'est pas favorable du tout à Gaïd Salah, là, au général, qui a pris le pouvoir.
Alors, il y a des choses qui sont, excusez-moi, particulièrement importantes dans ce mouvement. C'est que ce mouvement, ça a été un mouvement à la fois de toutes les générations qui se sont mises ensemble, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et puis que les hommes et les femmes étaient là. Mm-hmm. Et que on est encore, depuis quelques années, ce qui s'est passé il y a quelques années, dans les années 80, en Algérie, avec ces massacres qui étaient liés au travail des islamistes très, très islamistes, très, très sectaires. Et aujourd'hui, ben, on reste dans le travail en commun, hommes et femmes, et c'est important, on l'a beaucoup vu dans les films. Donc c'est quelque chose que vous allez discuter aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des personnes venues d'Algérie qui seront là ?
Oh bah oui, sûrement, puisque la classe ouvrière en France, elle a été enrichie par des arrivées successives de travailleurs immigrés. Et évidemment, l'immigration algérienne, elle a joué un rôle important. Il y a des liens historiques qui sont très forts entre l'Algérie et la France, de par l'histoire, de par la colonisation.
C'est-à-dire que s'il y a eu des grèves, vous l'avez dit, à Alger, à Rouiba, dans les aspects du pétrole, eh bien, c'est qu'il y a des personnes qui ont appris le travail syndical aussi en France.
Exactement.
Ils sont revenus après.
Et ils ont appris bien plus même que le travail syndical. Ils ont appris la lutte et quelque part c'est encore mieux. Et ça veut dire qu'effectivement, tous ces travailleurs qui se déplacent, en réalité, c'est une richesse pour la classe ouvrière. Et les travailleurs qui sont ici, ils auront beaucoup à apprendre des travailleurs algériens qui peut-être viendront ici, qui auront vécu un vrai grand mouvement en Algérie, et ça c'est une force pour tous les travailleurs. Surtout que bon, là on disait ils sont en train de dénoncer bien sûr le système, la corruption dans l'État, mais de toute façon pour aller jusqu'au bout, pour s'attaquer réellement à l'État et à la corruption, ça va revenir à s'attaquer à la bourgeoisie. Ça va être indispensable parce que déjà cet État algérien, bien sûr, comme en France, il est au service des grands patrons, des grands bourgeois, mais même encore plus que ça, encore plus qu'en France, quelque part, c'est y compris dans l'appareil d'État même qu'on trouve les grandes fortunes qui s'enrichissent comme ça en prélevant directement les richesses sur le dos de la population.
Très bien. Donc si vous avez envie, si vous-même vous êtes algérien, kabyle, que vous avez envie de parler de toutes ces choses-là et de voir cette exposition et de discuter de ces questions, ben venez, ça sera pendant toute la durée, le samedi après-midi et le dimanche.
L'exposition sera là pendant toute la durée de la fête, oui.
D'accord. Alors moi j'ai une question, on parlait justement de la lutte en Algérie, comment on fait pour que les luttes disparates qui sont entre les pays, qui ont pour des raisons nationales, en faire une lutte globale ? Parce que j'imagine que le problème des ouvriers algériens, c'est pas le même que les ouvriers américains, que les ouvriers russes et que les ouvriers français. Comment on fait pour uniformiser ces luttes ? Parce qu'il y a des besoins nationaux qui sont spécifiques pour chaque pays.
Je suis pas forcément convaincu qu'on ait des besoins. Enfin, par exemple, dans l'agroalimentaire, il y a eu des grèves importantes là à Alger dans l'usine Coca-Cola. Et en réalité, ce que le capitalisme a fait, c'est qu'il a largement homogénéisé la production à l'échelle internationale, que notre sort à tous les travailleurs, il est lié, en fait, par-delà les frontières. Que les frontières, c'est des archaïsmes, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et par exemple, il y a quelques années, il y avait eu des grandes grèves en Turquie dans l'industrie automobile. Renault, par exemple, faisait grève en Turquie et ça avait rapidement impacté l'usine Renault en France. Et ce qui était frappant, c'est que les ouvriers en Turquie, ils avaient côtoyé des ouvriers en France parce qu'ils étaient venus se former en France pour le boulot. Et à l'inverse, il y avait aussi des Français qui étaient en Turquie. Et en fait, même si on ne parle pas la même langue, à la fin du mois, on a le même problème. Il y en a un qui peut parler turc, arabe, la version, le dialecte algérien, égyptien, ou alors français ou américain. En réalité, les fins de mois difficiles, tout le monde les vit. Et dans bien des entreprises, y compris même si les gens ne parlent pas la même langue, quand on se retrouve à la fin du mois, ou voire au 15 du mois, ou au 10 du mois, et qu'on se dit, on regarde ses poches, et qu'on dit comment je vais faire manger les enfants, c'est une langue qui est internationale.
Le monde aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un village. C'est-à-dire que, en réalité, si on ouvre un peu les yeux, autour de nous, tous les gens qu'on rencontre, ne serait-ce qu'en prenant le bus, en prenant le métro, si on s'intéressait aux gens qui sont assis autour de nous, ils viennent des quatre coins du monde, et peut-être même très récemment, les migrants, par exemple. Ce que les médias appellent tout le temps, la crise migratoire, ce que l'extrême droite considère comme une menace. En réalité, déjà, c'est pas une menace pour nous, les quelques milliers de migrants qui arrivent en Europe. Au contraire, ils ont bien des choses à nous apporter. Et ce sont des travailleurs comme nous qui créent des richesses. Ceux qui nous disent « Oh là là, on n'a déjà pas assez ici », c'est complètement faux comme manière de voir les choses. Les richesses, c'est pas quelque chose comme ça qui est là et qu'on va devoir se partager comme on peut entre nous. Les richesses, ça se produit. Et les travailleurs, ils produisent des richesses Ce sont nos frères de classe, les migrants. D'ailleurs, quand on parle de migrants, en réalité, on parle de travailleurs. On n'entend jamais des capitalistes français ou des grands émirs arabes se faire traiter de migrants. Les migrants, d'abord, c'est des pauvres, c'est des travailleurs comme nous. Et ceux qui s'en prennent aux migrants, en réalité, ce sont des adversaires des travailleurs et ils cherchent à diviser la classe ouvrière. Nous, on pense au contraire que c'est une force. Et s'il y a bien une chose de positive que le capitalisme il a fait dans l'histoire, c'est d'unir le sort, l'avenir, le destin de tous les travailleurs de cette planète.
Alors si je vous suis bien, lutte ouvrière, vous êtes pour la mondialisation, vous. Vous aimez la mondialisation, alors tout le monde la critique, vous êtes pour.
Ben, on n'est pas du tout... On est contre la mondialisation capitaliste. En fait, le problème, c'est pas la mondialisation, le problème, c'est le profit, c'est la loi de la jungle qui fait que ben, chaque grand patron, chaque banquier veut toujours plus d'argent. C'est ça le problème. La mondialisation, en soi, c'est une richesse. Et nous, on est communistes et on veut se battre pour une société ben, qui soit débarrassée des oppressions, des injustices et puis aussi des frontières. Voilà. Là, on a un exposé, par exemple, sur l'histoire de l'espèce humaine et au chapiteau scientifique. Ça n'a pas de sens de parler de frontières, c'est quelque chose de récent. Si l'humanité était restée et n'avait pas bougé, eh ben, il n'y aurait pas d'humanité. D'accord ? Et donc ça veut dire que, d'une certaine façon, pour résumer ça, en dehors de l'Afrique, on est tous des migrants. On vient tous d'Afrique, on est tous des migrants. Eh ben, c'est dans cette histoire, en fait, que nous, on s'inscrit, on veut changer le monde ben, pour bâtir une société plus juste, plus fraternelle, une société communiste.
Alors, on va rappeler quelque chose, hein, c'est que cette fête de lutte ouvrière a lieu à l'espace Mosaïque de Saint-Priest, et que c'est le 21 à partir de 17h, et le 22 de midi à la fin de l'après-midi, 19h.
19h.
Voilà. Alors, on peut manger le dimanche. Il faut réserver à l'avance. Comment réserve-t-on ?
Alors, donc, on peut réserver par le même canal dont on avait parlé, donc sur notre site Lutte Ouvrière de la région ou la page Facebook Lutte Ouvrière Lyon. Et donc, pour pouvoir manger, c'est donc 12€ à l'avance, en plus de la place. Voilà. Et donc, c'est un grand banquet avec un grand banquet, quoi, comme on peut faire. Avec des entrées, un plat, on mange bien et c'est copieux.
Voilà. On boit aussi ?
Oui, on peut boire un petit verre, évidemment.
Voilà. Donc il y aura tout. Alors, on va revenir. Tu nous parlais de l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'espèce humaine. Ça fera partie du travail qui se fait sur les sciences aussi ? Il y aura un exposé là-dessus ?
Oui, un exposé un peu qui revient sur les dernières découvertes qui ont été faites par rapport à l'histoire de l'homme, quoi. Notamment récemment, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait l'homme de Luçon, là, qui a été découvert dans l'année. Le découvreur, d'ailleurs, est venu à notre fête parisienne cette année. Et y compris, ça montre que l'histoire humaine, elle est extrêmement riche. Il y a eu plein de périodes où il y avait plusieurs espèces qui se sont côtoyées, qui ont visiblement échangé, ne serait-ce qu'entre les Néandertaliens et nous-mêmes, il y a eu des échanges, il y a sûrement eu des histoires d'amour. Voilà. Et y compris tout ça, c'est des choses qui renforcent nos convictions l'espèce humaine, elle est capable de plein de grandes choses, à condition qu'elle affronte les problèmes qui se posent à elle. Et aujourd'hui, le problème fondamental, on pense que c'est celui de cette économie de marché qui est bâtie uniquement sur le profit et qui nous conduit à la catastrophe, par exemple, y compris sur le climat, y compris sur la pollution et les questions écologiques.
Donc ça, on reparlera après de l'exposé sur la crise climatique. C'est toi qui vas animer le débat, Cyril ? Un petit peu.
Non, pas sur celui-là. On est plusieurs.
Ouais. On partage le travail. De Haïti, hein. On peut pas tout faire tout le temps.
Alors moi, j'avais une question par rapport à l'humanité. On critique souvent lutte ouvrière sur le fait qu'il considère l'être humain d'abord comme sa fonction de travailleur, d'ouvrier. Alors qu'on parle d'humanité, on s'aperçoit que l'être humain, il fait autre chose que travailler, peut s'amuser. Alors, est-ce que c'est une vision un peu trop restrictive de viser l'être humain en tant que travailleur ?
Alors, bien sûr, l'être humain, pour nous, c'est pas juste un travailleur. Si on parle des travailleurs, c'est parce qu'on pense que dans la société d'aujourd'hui, dans cette société capitaliste, ceux qui ont les clés entre les mains demain pour renverser ce système, pour renverser le pouvoir des grands patrons, des grands milliardaires qui dirigent cette économie et qui nous dirigent dans le mur, eh bien, c'est les travailleurs qui peuvent le faire parce que c'est eux qui produisent les richesses et c'est donc eux qui peuvent diriger cette économie, non plus pour générer des profits colossaux qui ne profitent qu'à une minorité, mais au contraire pour résoudre tous les problèmes de l'avenir, de l'humanité, justement. Et bien entendu, pour nous, une société communiste, une société débarrassée de l'exploitation, bah, ça serait justement une société où tous les êtres humains, ils peuvent se réaliser, où ils peuvent tous avoir accès à ce qu'il y a de meilleur, tous vivre déjà dans des conditions saines, manger à sa faim, être logé, mais aussi, bien sûr, avoir accès à toute la culture, accès aux sciences, accès au divertissement, aux loisirs, bien entendu. Mais il faut quand même se rendre compte que dans la société d'aujourd'hui, c'est la société capitaliste, en réalité, qui nie cet aspect de l'humanité. Pendant qu'on est en train de discuter, là, y a des millions de gens qui vivent dans des bidonvilles et qui n'auront jamais, certainement, probablement jamais dans leur vie, malheureusement, la possibilité d'avoir accès aux découvertes scientifiques, ne serait-ce même qu'à une salle de cinéma. Voilà, c'est quand même ça, le monde dans lequel on vit. Et nous, justement, si on mène ce combat et si on pense que les travailleurs, ils ont tout intérêt à changer les choses, c'est pour arriver à une société où tout ce qu'il y a de meilleur profite à tous.
Je propose qu'on écoute maintenant une deuxième chanson, parce que vous avez donc des musiciens qui viennent. Et ces musiciens, eh bien, peut-être qu'il y a Breaking Fuse, par exemple, que nous pourrions écouter. Et puis ensuite, on reviendra, parce qu'il y a deux autres points sur lesquels il faut qu'on discute. C'est les débats. Un débat qui aura lieu sur le climat, et puis un débat qui aura lieu sur les gilets jaunes. Et on en parlera juste derrière. Vivre ensemble, la première partie de Vivre ensemble, c'est avec nos amis de Lutte ouvrière qui sont là, Cyril et Thomas, et qui vont nous parler des débats. Il y aura des débats, tout le monde qui viendra ici pourra participer à ces débats. Le premier débat, le samedi, c'est sur les gilets jaunes. C'est Thomas qui va nous en dire un petit mot.
Et oui, bien sûr, parce que l'actualité, cette année, elle a vraiment été marquée par ce mouvement des gilets jaunes qui a profondément changé l'ambiance, le climat politique dans notre pays. On voit même que Macron, il peut plus être aussi arrogant qu'il ne l'était au début de son mandat. Donc on veut bien sûr revenir sur ce mouvement des gilets jaunes et discuter des perspectives. Alors jusqu'à maintenant, ce qui a beaucoup été fait, c'est ces occupations de ronds-points, ces manifestations le samedi qui ont permis vraiment aux gilets jaunes de se montrer, d'être visibles. Cela dit, nous on pense que ce qui pourrait vraiment donner un nouvel élan aux mouvements sociaux, c'est que les travailleurs ils prennent la tête de ces mouvements, parce que finalement, ceux qui ont les clés pour s'en prendre là où les grands patrons font des profits sur le dos de toute la population, c'est les travailleurs, c'est bien les travailleurs qui créent les richesses. On a vu le journal Les Échos, par exemple, dire que jusqu'à maintenant, le grand patronat, ils ont réussi à traverser la crise du mouvement des Gilets jaunes sans y perdre un centime, en quelque sorte. Et donc, ça montre bien que la limite, pour le moment, elle est là. Et ceux qui pourraient vraiment changer la donne, c'est les travailleurs, en mettant en avant leurs propres revendications.
Alors, c'est là que se pose la question qui a été posée pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, du rapport entre le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors oui, alors les syndicats, ce qu'on a vu, c'est que les syndicats, au moment où le mouvement des Gilets jaunes était le plus fort, eh bien ils étaient très frileux pour
tous les syndicats.
Eh oui, moi je pense que tous les syndicats, ils ont quand même un point commun, c'est que ils craignent un mouvement qui n'est pas directement sous leur contrôle. Alors quand je dis ça, je ne parle pas des délégués syndicaux, je ne parle pas des travailleurs qui tentent de s'organiser avec leurs collègues de travail pour se défendre. Là, je parle des directions syndicales, des dirigeants syndicaux qui, eux, veulent toujours garder la main sur ce qui se passe. Et comme le mouvement des Gilets jaunes, il s'est construit en dehors de leur contrôle, eh bien, ils s'en méfiaient. Et donc, on ne peut pas dire que au moment où le mouvement était le plus fort, les dirigeants syndicaux aient fait tout leur possible pour en être. Mais cela dit, moi, quand je parle des travailleurs, Je ne parle pas uniquement des syndicats. Je parle de tous ceux qui produisent les richesses dans ce pays, qui peuvent s'organiser, qui peuvent aussi se saisir de ce qui se passe pour dire, justement, les gilets jaunes ont mis en avant que les prix augmentent, le prix de l'essence augmente, que la vie est trop difficile. Alors, c'est vrai qu'on avait beaucoup entendu au début que ce sont les taxes qui sont trop élevées ou des choses comme ça. Justement, ce que les travailleurs pourraient apporter, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'essence qui augmente, que tout augmente et surtout que nos revenus, ils viennent de nos salaires. Et que donc, si on veut changer réellement nos conditions de vie, c'est les salaires qu'il va falloir augmenter et qu'il va falloir aussi, nous c'est ce qu'on pense à Lutte Ouvrière, imposer que les salaires augmentent systématiquement dès que les prix augmentent. C'est-à-dire qu'il est indispensable d'indexer les salaires sur les hausses de prix et que ça, seuls les travailleurs peuvent le faire en allant eux-mêmes contrôler les prix et en imposant eux-mêmes que les salaires, ils augmentent systématiquement.
Alors, il y a un deuxième débat qui aura lieu plutôt le dimanche et c'est le débat sur le climat.
Alors, c'est un débat autour de la crise climatique et des questions écologiques. Et on a vu, là, avec les élections européennes, il y a une préoccupation sur cette question-là dans la population. Et nous, on pense qu'effectivement, c'est une question qui est vitale à se poser, qu'il faut se poser. Mais nous, on veut la relier, en fait, au capitalisme. Parce que quand on regarde les courants de l'écologie politique, en réalité, souvent, ils en reviennent plutôt à des solutions individuelles, à l'aspect, en fait, d'une sorte de culpabilisation et qui ne peut pas régler les problèmes, parce que c'est des problèmes qui sont beaucoup plus généraux, beaucoup plus systémiques, liés à l'organisation de la société. Par exemple, sur le climat, si vous prenez l'organisation des transports, aujourd'hui, on a une noria de camions sur les autoroutes, sur les routes, en permanence. Ça, c'est lié en partie au fait que les industriels, aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir de stock. Et en réalité, leur stock, il est dans des camions. Renault Trucks, par exemple, qui est juste à côté à Saint-Priest, ils ont une grande partie de leur stock qui circule entre leurs différentes usines. Et ça, c'est une cause de pollution qui est majeure. C'est la même chose, par exemple, dans les transports en commun. Comment voulez-vous que les villes elles puissent développer leurs transports en commun alors qu'elles ont pas, leurs moyens se restreignent de plus en plus ? Et ça, c'est un problème. Et c'est la même chose pour le train. C'est la même chose en permanence. On voit que les choix qui sont faits, en réalité, correspondent à ceux qui répondent aux besoins des industriels, pas à ceux de la population. Et nous, on pense que du coup, si on veut résoudre cette question du climat, comme pour la pollution, il faut s'en prendre aux vrais pollueurs, aux industriels, aux grands groupes qui, eux, en fait, se moquent comme de leur première chemise, en réalité, de la pollution.
Donc ça, c'est le débat du dimanche. Oui. Vous aurez, avec toutes les personnes qui seront là à la fête de lutte ouvrière, à l'espace mosaïque de Saint-Priest, donc le 22 septembre, le deuxième jour.
J'avais une autre question.
Ah oui, encore une autre question.
Bien entendu, j'ai plein de questions en fait pour lutte ouvrière. C'est, on parlait des gilets jaunes, on parlait de problèmes d'écologie. Comment Lutte Ouvrière, qui est une vieille organisation, je le dis ça gentiment, une vieille organisation politique, comment elle fait pour se mettre au goût du jour ? Parce que quand on pense à Lutte Ouvrière, on ne pense pas à combat contre le climat, combat écologique. Alors comment on fait à Lutte Ouvrière pour intégrer ces nouveaux débats ? Idem par rapport aux Gilets jaunes, des choses comme ça.
En fait, alors Thomas, une réponse.
Oui, juste, moi je pense que... Bien sûr que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, ça se nourrit de ce qui se passe autour de nous. Il y a encore quelque chose que je voulais dire sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont mis des choses extrêmement justes sur la table. Par exemple, ils ont dit, on paye des impôts, eh bien c'est normal qu'on aille voir ce que l'État y fait avec cet argent. C'est notre argent, on le paye, c'est à nous de contrôler, nous la population, de voir ce que l'État en fait. Eh bien ça, par exemple, c'est tout à fait juste. Après, nous, on a... une conviction profonde, c'est que ceux qui ont encore plus de pouvoir que l'État dans cette société, c'est le grand patronat. Alors, à partir de ce que les Gilets jaunes ils disent fort justement, nous, on veut ajouter des choses. On veut dire que, bien sûr, c'est légitime que la population aille voir ce qui est fait avec l'argent des impôts, mais c'est même tout aussi légitime que tous les travailleurs, ils aillent voir ce que les patrons y font de tous ces bénéfices, ce qu'ils font de leurs profits. Cet argent aussi, c'est le nôtre, en quelque sorte. Vous savez, quand on entend le plus riche de France, là, Bernard Arnault, promettre qu'il va donner des millions et des millions pour la cathédrale Notre-Dame, par exemple, ça avait choqué beaucoup de monde. Bon, nous, en tout cas, on pense qu'il y a plein de choses utiles à faire dans la société, mais que ceux qui doivent prendre les décisions... C'est pas des grands capitalistes qui se sont enrichis grâce à notre travail, c'est nous-mêmes, c'est les travailleurs. Et donc, on est pour un contrôle, mais y compris pour un contrôle de ces grandes fortunes, de leurs capitaux, et on pense que c'est aux travailleurs d'aller mettre leur nez dans les comptes des entreprises pour diriger eux-mêmes les choses. Donc vous voyez, bien sûr, tout ce qui se passe autour de nous, l'actualité, on s'y intéresse. Et puis après, je pense qu'on a aussi bien des choses à apporter. C'est pour ça qu'on milite. C'est parce qu'on pense que c'est indispensable d'avoir des idées, et que les idées, c'est des armes pour changer la société.
J'ai encore une question, mais peut-être que tu veux répondre aussi.
Moi, c'est juste pour un petit aspect. C'est vrai qu'on est, entre guillemets, une vieille organisation. Il n'y a pas de... C'est vrai, on existe depuis, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale. Mais notre courant d'idées, il est même bien plus ancien. Il date du 19e siècle. Et en fait, c'est le marxisme. Et ce qui est frappant, en fait, le marxisme, puis le mouvement ouvrier, c'est-à-dire le fait que les travailleurs s'organisent à un moment pour... se dire qu'il faudrait qu'on dirige le monde. Eh bien, ces questions-là, au XIXe siècle, elles ont déjà été développées. Et il y a plein de textes de Marx, par exemple, où il dit, ben oui, la terre, comme la nature et comme l'être humain, eh ben, il faut le préserver, c'est une richesse, y compris on va devoir la transmettre aux générations futures. Marx, il en parle de ça. Mais comme le mouvement ouvrier, il a déjà parlé, par exemple, des questions féministes. Nous, on est une organisation féministe, on est la première organisation à avoir présenté Arlette Laguiller en 1974, première femme candidate. Notre camarade Nathalie Arthaud était aussi candidate récemment. Donc on est une nation féministe. Mais le féminisme, ça fait partie de l'ADN du mouvement ouvrier. Parce qu'en fait, ben, la classe ouvrière, les travailleurs, ben, c'est 50% d'hommes et 50% de femmes. Et ça, c'est quelque chose qui date du 19e siècle. Donc en fait, ça nous fait un petit peu sourire. Donc, parce que ça apparaît comme des questions nouvelles. Mais pour nous, c'est des questions dont on parle déjà depuis finalement 150 ans.
En fait, c'est l'actualité qui revient sur vos thématiques plutôt que vous qui courriez après l'actualité.
Bah, ça montre surtout que le capitalisme, il nous amène droit dans le mur. Et que ces questions-là, bah, qui étaient déjà posées au 19e siècle, elles deviennent de plus en plus... il faut qu'on les résolve. Et si on ne les résout pas, on va basculer dans la barbarie. Hein, quand on voit la montée de l'extrême droite aujourd'hui dans toute l'Europe, eh ben, c'est extrêmement inquiétant. Hein, et demain, dans quel monde on va pouvoir vivre ?
Alors, je reviens sur ma question de la mondialisation. Pour lutter par rapport à ces problèmes, il faut que les ouvriers du monde entier se réunissent, parce que c'est pas qu'en France que vous pouvez lutter par rapport à ces problèmes-là, par rapport au capitalisme et à la mondialisation. Alors, est-ce qu'il y a aussi une vocation à lutte ouvrière d'une internationale ouvrière et avec d'autres collectifs nationaux, d'autres partis ouvriers nationaux, pour pouvoir à une lutte commune? Déjà, essayons au niveau européen, quoi. Ça serait déjà pas mal.
Alors, bien sûr, en fait, ceux qui ont du retard sur toutes ces questions-là, eh ben, ce sont les dirigeants nationaux de tous ces pays capitalistes qui sont encore aujourd'hui à nous parler de frontières, à nous dire qu'il faut se retrancher, se protéger derrière des frontières qui en fait ne nous protègent d'aucun des grands enjeux d'avenir. Bien entendu, l'air, par exemple, on respire tous le même. Alors, prétendre qu'on va résoudre les grands enjeux climatiques, les grands enjeux économiques à l'échelle d'un petit pays, eh ben ça, pour le coup, ce sont des vieilles idées complètement arriérées. Et nous, on parle d'internationalisme, effectivement. On pense que tous ces enjeux, c'est les travailleurs de tous les pays qui peuvent y apporter des solutions et qui peuvent le faire tous ensemble. D'ailleurs, les idées qu'on défend, eh bien, on les défend aussi dans d'autres pays. On connaît des militants qui militent sur les mêmes bases que nous, dans tout un tas de pays, en Europe, bien sûr, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, mais même plus loin dans le monde. On connaît des camarades qui défendent les mêmes idées que nous, aux États-Unis, à Haïti, et voilà. Donc,
il y a des trotskistes aux États-Unis ?
Eh oui, bien sûr. Et puis, il y a même des trotskistes aux États-Unis depuis bien longtemps, qui ont mené des grèves importantes, bien entendu.
Voilà, vous nous dites que les capitalistes sont très liés sur le plan international. Vous nous dites qu'il peut y avoir des trotskistes aux États-Unis, en Allemagne, en Haïti. Pour l'instant, ben, on attend un petit peu que vous avanciez un petit peu plus là-dessus. Est-ce que, donc, vous nous disiez que vous étiez déjà féministe avant même que le féminisme soit comme aujourd'hui tout à fait à l'ordre du jour, et que Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud étaient là pour être les porte-parole, hein, aussi bien sur le plan national pour l'élection présidentielle. que pour les discussions. Vous allez avoir des allocutions politiques. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pas Nathalie Arthaud qui vient faire l'allocution politique. Il y a d'autres personnes, Abdel Kopf, et Olivier Minou qui sont là. La première allocution politique sera celle d'Abdel Kopf le samedi à 20h. Et puis la deuxième, Olivier Minou, ça sera dimanche à partir de 16h. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des Lyonnais?
Qui est faite par Abdel Kopf, qui est enseignante là dans un lycée à Villeurbanne, ça sera plutôt sur les questions justement de la crise du capitalisme, de ces histoires, de la crise climatique et tout, dans quelle société on veut vivre. Et le dimanche,
un ouvrier,
mais je peux laisser Thomas présenter.
Olivier Minou, qui est ouvrier dans la chimie. Et ces allocutions, ça permettra de parler de la situation politique actuelle. Alors, ça n'a échappé à personne que le gouvernement prépare de nouvelles attaques contre les droits des salariés, des travailleurs, avec une réforme des retraites qui va nous ramener des années en arrière. Hein. Le gouvernement parle déjà de calculer les retraites non plus sur les meilleures années, mais sur l'ensemble d'une vie de travail. Donc avec forcément les salaires sur lesquels seront calculées les retraites seront plus faibles. Et donc certains travailleurs vont y perdre des centaines d'euros par mois quand ils seront à la retraite. Et donc, plus que jamais, ce qui est à l'ordre du jour, c'est une vraie guerre qui se prépare entre le gouvernement au service des grands patrons et puis les travailleurs. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que on n'est pas, les travailleurs sont très loin d'être désarmés dans cette guerre-là. C'est nous qui produisons toutes les richesses et ça, bien entendu, les adversaires qu'on a devant nous, le gouvernement, ils le savent très bien. Ils savent qu'en réalité, la situation, elle est explosive et que tout peut finir par leur sauter à la figure parce que les travailleurs, ils sont capables de mener des grèves puissantes et tout ça. D'ailleurs, sûrement grâce au mouvement des Gilets jaunes, on voit que le président Macron, il n'arrive plus à être aussi arrogant qu'il l'était au début de son mandat. Même cette réforme des retraites, ils avaient dit qu'ils allaient le faire rapidement à la rentrée. Aujourd'hui, ils disent « oulala, on va temporiser, on va faire un débat national ». Bon, il n'y a rien à attendre de ce débat national. Mais ça montre quand même que le gouvernement, eh bien, ils nous craignent. Et ce qu'il faut faire, c'est leur donner raison, leur montrer qu'ils ont raison de nous craindre et que les travailleurs, ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices alors que les grands patrons de ce pays n'ont jamais fait autant de profits qu'aujourd'hui.
On va bientôt s'arrêter, hein, l'heure est presque terminée. J'avais une petite question, Cyril. Je voudrais qu'on dise bonjour à Hélène.
Allez.
Hélène, donc, c'est quelqu'un qui a été longtemps à Lyon, qui est partie travailler à Paris, et puis qui revient à Lyon. Donc, on la salue. Je ne sais pas si elle nous écoute pour le moment, mais en tout cas, ça fait plaisir. Voilà. Et je voulais vous poser encore une question sur les expositions que vous faites. Il y a une exposition sur l'Europe de l'Est, 30 ans après la chute du mur. Comment avez-vous fait cette exposition et qu'est-ce que ça va nous apporter ?
C'est une exposition en fait qui part essentiellement au début des grandes grèves qu'il y a eu en Pologne à la fin des années 70, dans les années 80, et avec Solidarnosc, etc., et qui montre qu'en réalité, même clandestinement, c'est capable de s'organiser dans le mouvement ouvrier était capable de faire ça avec des centaines de milliers de gens et de poser un énorme problème politique au pouvoir. Et voilà, y compris dans toutes ces histoires-là, on voit que les travailleurs, ils sont capables de se battre, de se défendre, etc. Et à chaque fois, en réalité, ils se retrouvent bien souvent derrière des politiciens et des hommes politiques comme Baleza, etc., qui n'ont pas comme préoccupation, en réalité, de défendre vraiment leurs intérêts. Et là, en Pologne, les travailleurs, ils se retrouvaient derrière l'Église catholique. Et quand on regarde aujourd'hui le bilan, où en est-on ? Le mur est tombé, y compris à Berlin, etc. Mais la situation des travailleurs, elle a guère changé. Ça va pas beaucoup mieux à l'Est. Et c'est même pire que ça, puisqu'il y a à nouveau des murs qui se redressent. On a des barbelés qui reviennent de partout. Et ça, c'est quelque chose qui nous révolte profondément. Et on pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise pour changer la société.
Alors moi j'avais une dernière question. Vous parliez de mobiliser pour changer la société. Cette année pour vous, enfin pour nous tous, c'est une année importante puisqu'il y aura des élections municipales. Est-ce que l'Utre-Ouvrière sera présente sur la région pour les élections municipales ?
Ben, tout à fait. Hein. On sera candidat dans un certain nombre de villes, en particulier les villes ouvrières de la banlieue lyonnaise, à Vau-en-Velin où Thomas sera, à Vénissieux, à Saint-Fons, à Villeurbanne, etc. Et à chaque fois, ça sera l'occasion de défendre le point de vue du monde du travail, leur permettre en réalité aux travailleurs conscients d'exprimer le fait que l'avenir leur appartient et qu'il ne faut pas se résigner et qu'on peut changer la société.
Voilà. Bon, on pense que c'est indispensable qu'il y ait un parti qui défend les intérêts politiques des travailleurs et donc on va constituer des listes de travailleurs pour ces élections municipales. Voilà.
Très bien. Eh bien écoutez, on viendra, les gens qui nous écoutent viendront certainement nombreux à la fête de lutte ouvrière, espace mosaïque de Saint-Priest. On peut y aller par le T2, qu'il faut s'arrêter, on le prend à Lyon, et on s'arrête à la mairie de Saint-Priest, ou le C25.
À Paris.
Voilà, c'est tout simple. Vous serez certainement nombreux, j'espère pour vous, et on va se quitter. Merci d'être venu.
Merci. Merci.
Attendez, on va se quitter. Vous allez me présenter la chanson. C'est vous qui me l'avez demandé. On présente la chanson. Ils y seront aussi présents au...
Nero Nebbia.
Ils seront aussi présents au festival, non ?
Tout à fait. Un groupe de rock donc, qui s'appelle Nero Nebbia.